Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Amen. Voilà, il y a des passages comme ça dans l'Évangile qui revêtent un caractère un petit peu solennel et de mise en garde. Parce que ça concerne, il y a plusieurs niveaux dans l'interprétation, ça concerne le peuple juif, ça concerne aussi l'humanité entière qui se tourne vers le Seigneur. Voilà. Mais nous, on ne va pas rentrer ce soir dans l'eschatologie, savoir exactement qui ça concerne, à quelle période. On va simplement retenir un autre niveau de la parole que le Seigneur a donnée. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et d'une certaine manière, ça ferait, sans le faire exprès, un peu suite à ce que l'on a partagé mardi, quand on a regardé que David se trouvait en difficulté parce que Doeg, l'édomite, en fait, jouait le faux frère. Il se retrouvait dans la maison de Dieu avec Akimélec. Il a entendu ce que David disait à Akimélec, il l'a rapporté à Saül, et David s'est retrouvé trahi. Et il dira, mais moi je suis comme dans la maison de l'Éternel, comme un olivier verdoyant. Alors Dieu va faire grâce à son enfant qui se confie en lui. Néanmoins, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons être candides. Il faut qu'on soit prudent et simple. Prudent comme les serpents, simple comme les colombes. Alors ceux qui seraient doués en dessin, essayez avec le serpent et la colombe de faire un animal. Ça va faire bizarre, parce que qu'est-ce qu'on va mettre du serpent dans ce résultat final et qu'est-ce qu'on va mettre de la colombe? Parce que si on met la tête de la colombe, il faut peut-être mettre une autre partie du serpent. Si on met la tête du serpent avec les ailes de la colombe, ça fait un petit peu bizarre. Voilà. C'est comme pour dire que l'un et l'autre ne sont pas compatibles forcément. Et la prudence et la simplicité ne sont pas si évidents que ça à vivre, à manifester. Parce que maintenant que nous sommes chrétiens, parfois on aurait tendance à faire un petit peu trop vite confiance. Ce n'est pas pour amoindrir certains passages des Écritures, mais quand même si l'amour croit tout, c'est un postulat de base, l'amour croit tout, parce qu'il n'y a pas d'a priori, ce qui n'enlève ni la prudence, ni la simplicité. Alors, prudent comme les serpents. De quelle manière le serpent manifeste-t-il sa prudence? Et c'est ça qui va nous parler, puisque le Seigneur l'a pris en exemple. Le serpent manifeste sa prudence au travers du regard. Et puis, au travers de sa capacité d'écoute. J'ouvre juste une parenthèse. Hier, on a amené la toute petite nièce, mais enfin, c'était peut-être pas un peu trop tôt pour elle, au musée des dinosaures à Metz. Et en fait, dinosaure, ça veut dire serpent, non, grand lézard. Ça vient de lézard. Voilà, et tous les dinosaures sont des lézards. Du coup, et puis forcément, c'est tellement affirmatif ce qu'ils mettent, c'est-à-dire on suppose que, qu'aujourd'hui, les descendants des dinosaures, ce sont les oiseaux. Du coup. Ah oui, parce qu'ils vous expliquent, schéma à l'appui, que les descendants des dinosaures, ce sont les oiseaux. Parce qu'ils ont muté pour s'adapter aux changements, aux airs, etc. Alors, moi, je n'étais pas loin d'être convaincu. Surtout quand ils mettent on suppose que, et à la fin, vous avez des grands tableaux qui vous disent ben, peut-être que la disparition des dinosaures est due à ça. Le tableau d'à côté, peut-être que c'est dû à ça. Le tableau d'à côté, peut-être que c'est dû à ça. Et dès que vous entrez, vous avez un homme préhistorique. Et un peu plus loin, ils vous mettent, les hommes n'ont jamais côtoyé les dinosaures. Donc du coup, il faut vraiment faire preuve de réflexion pour ne pas faire des amalgames. Et à mon avis, les enfants, ils voient l'homme préhistorique, ils voient les dinosaures, tout le monde en même temps. Voilà. Donc ça vient de lézards et de choses rampantes. On revient à notre serpent. Le serpent a une particularité, c'est son regard. Il y a quelques jours, on a trouvé dans le jardin une vipère. Ça fait des lustres, c'est la deuxième que je trouve, pas chez nous, la dernière fois j'étais chez la belle-mère derrière le volet. Heureusement que le petit chien n'était pas à côté à ce moment-là. Elle n'était pas grande. Hein. Alors, on est allé voir le pharmacien pour confirmation du diagnostic, qui l'a confirmé. Et après, je me suis dit, mais s'il y en a une, comment elle est arrivée là? Parce que d'un côté, on a la rue, de l'autre, il y a les voisins. Et donc, elle n'est pas tombée d'un bec d'oiseau. Alors, on va voir s'il y a d'autres bestioles qui sortent. Mais du coup, grand ou petit, quand vous regardez ça, vous êtes regardé aussi. Et on vous fixe. J'avais le balai. Non pas par peur, mais pour essayer de la bloquer sans l'abîmer, j'ai réussi. Après, je l'ai relâché dans la nature, j'ai joué ma carte verte. Parce qu'il faut protéger les vipères. Donc, c'est par son regard. Ces animaux-là, ils ont une particularité, ils vous fixent. Je ne sais pas quand ça remonte la dernière fois que vous avez fixé un serpent. Parce qu'en général, voilà, les serpents et les femmes, ça se croise très rarement. Très rarement. Je ne veux pas dire que les hommes, on leur court après, mais voilà. Mais quand ils sont derrière une épaisseur de verre suffisante, etc., et que vous les regardez, ils ne bougent pas, ils sont capables de rester inertes, mais ils ont un regard. Voilà. Et ensuite, ils ont une capacité d'écoute, sauf qu'ils n'écoutent pas avec les oreilles, parce qu'ils n'en ont pas. Et là, peut-être qu'il y a le son que le Seigneur veut nous indiquer. Nous avons trop tendance à écouter avec nos oreilles. Et nos oreilles ne captant que les mots, et les mots n'étant que des suites de lettres, si les mots ne sont pas confirmés par les faits, on reconnaît l'arbre à son fruit, on n'a jamais vu un arbre parler, eh bien le Seigneur a raison, ce n'est pas aux paroles que nous devons nous attacher, c'est aux faits, concrètement ce que fait la personne. Voilà. Et le serpent, lui, il écoute, mais comme il n'a pas d'oreille, alors il écoute avec d'autres parties de son corps, puisqu'il sent les vibrations, il sent la chaleur. Et j'oserais franchir un pas, sans l'appliquer au serpent, nous sommes appelés à sentir avec notre cœur. Et surtout avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ces animaux n'ont pas la capacité d'avoir la dimension spirituelle. Mais nous, oui. Alors avec quoi écoutons-nous? Si après avoir reçu un cœur nouveau, des pensées, des sentiments nouveaux, et l'Esprit de Dieu, nous continuons à écouter avec nos oreilles, ben quelque part, on est en décalage total, puisque Dieu nous a dotés de facultés de réception, j'allais dire captation, excusez le terme, de facultés extraordinaires pour capter le fond des choses, et nous continuerions de fonctionner juste avec l'apparence des choses, des mots. Alors il y a celui qui va mal parler parce qu'il ne sait pas utiliser les mots, il y a celui qui va bien parler, alors là il va vous vendre la machine que vous avez toujours attendue depuis toute votre vie. Vous ne saviez même pas qu'elle existait, mais heureusement qu'il est passé, il vous la vend. Voilà. Et il y en a comme ça. Aujourd'hui, c'était le jour des démarchages par téléphone. Pour nous, ça n'a pas sonné, c'est extrêmement rare. Mais ça sonne en permanence. Sauf que j'étais chez ma belle-mère ce matin, ça a sonné, et elle a eu son compte, celle qui a appelé. Parce qu'en plus, ma belle-mère a l'accent pied noir, et l'autre, elle n'avait pas du tout l'accent pied noir. Alors, elle lui a fait une explication de texte avant de raccrocher. Voilà. Et c'est pour dire que ce ne sont que des mots, ce ne sont que des ondes dans le vent. Et si ce n'est pas traduit par un fond intérieur sérieux, alors nous nous faisons avoir. Le serpent ne se fait pas avoir. Il sent les vibrations. Et c'est pour ça que très rarement on les croise, parce qu'ils nous sentent arriver. Ils nous entendent arriver à leur manière. Et ils savent très bien ce qu'eux doivent faire. Et pourtant, ils sont en capacité de se défendre. Donc le fait de fuir certaines situations, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'intelligence. C'est de la protection. Le Seigneur était capable de régler toutes les situations qui se sont présentées à lui. Il a fait le choix de régler que les situations de personnes qui en avaient besoin. Les situations de conflit, de position, il dira même, mon père pourrait m'envoyer plus de 12 légions d'anges, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Voilà. Et il va s'écarter de certaines situations. Prudent comme les serpents. Dans l'évangile de Luc, le Seigneur dira, les enfants de ce siècle sont plus avisés ou prudents. C'est un peu le même terme, à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Luc 16, 8. C'est un passage que j'aime beaucoup, sur lequel on avait médité en son temps, puisqu'il est dit ensuite, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Voilà. Mais on ne va pas parler ce soir du verset 9, Luc 16, 8. Deuxième partie, « Les enfants de ce siècle sont plus avisés ou prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Donc ce que le Seigneur dit est fondé, et il a même remarqué que des inconvertis sont capables de faire preuve de plus de prudence à l'égard de leurs semblables que ses propres enfants. Ce qui, pour nous, doit être quand même une leçon à entendre et à apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va se méfier des autres, mais le Seigneur nous appelle à être prudents. On est nés de nouveau, mais tous différents. D'ailleurs, il suffit d'aborder un sujet, en dehors des sujets de banalité, pour voir que tout n'est de nouveau que l'on est avec la même parole et le même esprit. Sur certains points, on n'a pas du tout la même réflexion. Voilà. Et il convient d'être prudent. C'est une des raisons, il n'y a pas que celle-là, hein, mais c'est une des raisons de la diversité des églises aujourd'hui et des groupes chrétiens aujourd'hui. Si on se base que sur certains faits positifs, parce qu'après il y a des faits qui sont moins positifs, où on cherche plutôt son intérêt, se regrouper avec ceux qui pensent de la même manière, etc. Alors que l'Église, de fait, l'Église elle est diversifiée. L'Église elle est complètement, d'une certaine manière, hétéroclite. Il y a des maîtres, il y a des esclaves, il y a des Grecs, il y a des Romains, il y a des Juifs, il y a des païens, il y a de tout dans l'Église. Il y a des anciens homosexuels, il y a des anciennes prostituées, c'est Corinthe. Hein. Corinthe, l'éventail, il est vraiment large. Voilà. Et il convient d'être prudent. Voilà. Et de bien regarder les choses. Et de bien écouter, de bien sentir. J'essaie de me mettre, de me transposer à cette époque-là de l'esclavage. Par la grâce de Dieu, on n'a pas connu l'esclavage. Mais quel rapport particulier entre maître et esclave? Or, les voilà les deux convertis dans la même église. Alors le Seigneur dira à l'esclave, si tu peux être libre, profites-en. Mais néanmoins, n'en fais pas une affaire absolue. Et tu peux tout à fait t'accommoder de la situation. Et vous, maître? Et il leur parle. Alors, on se transpose un tout petit peu à Corinthe. Non pas pour voir des faits divers, mais pour voir deux situations que l'on souhaiterait être différente, mais ce n'est pas le cas, un maître et un esclave. Et qui vont rester maître et esclave. Comment vont-ils louer le Seigneur ensemble? Comment vont-ils se parler? Vont-ils même s'asseoir à côté? Tout à l'heure, on plaisantait, mais il y a des situations qui posent problème. Le maître et l'esclave dans la même église, on s'assoit où? Parce que c'est juste une parenthèse, le fait de se retrouver ensemble dans la maison de Dieu. Tout le reste de la journée et de la nuit, c'est maître-esclave. Voilà. Et c'est là qu'il convient d'être prudent. Comme les serpents. Non pas de se méfier de l'autre, mais ce n'est pas parce que désormais nous sommes frères qu'il n'y a plus de différence. Là, il y a des différences majeures. Maître-esclave. Et tant que l'esclave n'est pas libéré, le maître a tout pouvoir sur lui, toute autorité sur lui, et sur sa famille aussi. Voilà. Alors, ce sont des situations qu'on ne connaît pas aujourd'hui, tant mieux, mais les enfants de ce siècle sont plus avisés, plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Voilà. Parce qu'on est frères et sœurs maintenant, ben ce sera comme ça. Non, ça ne peut pas être comme ça. Parce qu'il y a des différences qui sont contextuelles, qui ne sont pas comme Dieu l'a voulu, mais on ne peut pas, sous prétexte de fraternité, d'un claquement de doigts, tout faire voler en éclats. Voilà. Il faut être prudent. Dans la même lettre aux Corinthiens, il y a ce chapitre 7 où l'apôtre Paul répond à des questions pratiques qui lui sont posées concernant le fait d'être chrétien et marié avec quelqu'un qui ne l'est pas. Il faut être prudent. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est chrétien maintenant qu'on va avoir un comportement complètement différent à l'égard de notre conjoint. Il ne comprendrait plus. Alors, le comportement, il peut être radical dans un sens ou dans l'autre. Hein. On peut dire, bon, maintenant, moi, je suis chrétien, toi, tu ne marches pas avec Dieu, on se sépare. Ça ne devrait pas être à l'initiative du chrétien, ça devrait être à l'initiative du non-croyant. Et vos enfants ne sont pas impurs, parce qu'il y a la grâce de Dieu. Et le Seigneur sait très bien qu'il faut non pas adapter sa parole, mais il faut tenir compte des contraintes. C'est ce qu'ont rencontré les missionnaires. Partis dans certains pays il y a des années, ils se sont convertis en France avec des braves frères de chez nous de la Pentecôte. C'est comme ça. Voilà. Et eux se sont convertis, ils sont arrivés en Afrique. Et là, ils ont trouvé des situations de polygamie. Et tout le monde se convertit. Aïe, aïe, aïe. Comment on fait? Comment on fait? On écrit, parce qu'à l'époque, il n'y a pas le téléphone, on écrit aux frères de France, et comment on fait? Et les autres de dire, ah oui, on n'avait pas prévu le cas de figure. Ici, on sait comment on fait. Mais là-bas, eux disent, culturellement parlant, si vous dites, vous gardez une épouse, il faut d'abord déterminer laquelle. Alors, par défaut, la première. Alors, je vais au bout, mais ne riez pas. Mais c'est qu'en général, la première, c'est la plus vieille aussi. Donc, on referme la parenthèse. La première. Mais ça veut dire que toutes les autres sont des répudiés dans le contexte culturel. Donc, leur famille va les rejeter, c'est systématique. Leur famille les rejette. Plus personne ne va les prendre pour femme. Et comme culturellement parlant et financièrement parlant et le fait d'être nourrie, elles dépendent du mari, vous les envoyez direct à la mort, elles et leur progéniture. Alors comment on fait? Comment on fait? Les voilà baptisés du Saint-Esprit qui parlent tout ça. Comment on fait? Comment on fait? Il n'y en a pas un qui est mari d'une seule femme. Comment on établit les anciens? Oui, mais c'était un vrai casse-tête, excusez le terme, pour les missionnaires, premiers missionnaires. Aujourd'hui, avec le temps, des choses se sont normalisées. C'est un petit peu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Vous avez Salomon, vous avez David, ils ont écrit, ils ont fait des choses remarquables. Mais de temps en temps, vous vous dites, quand même. Dès la Genèse, Seigneur, tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère et sa mère s'attachera à sa femme. Mais David s'est exonéré de ça. Salomon, alors là, lui, il a battu tout le monde au poteau, à tel point que, essayez de vous rappeler, comment elle s'appelle déjà? Ah ouais, je le dis sous forme de plaisanterie, mais 700 femmes, 300 concubines, ça fait 1000 personnes. Alors déjà, quand vous appelez Joséphine Martine, je vous dis, qui c'est celle-là? Alors là, il y en a 1000. Il y en a 1000. On est dans une dimension de folie. Néanmoins, Salomon est Salomon. Quand il prie pour la dédicace du temple, tu entends, Dieu répond. Alors on revient dans notre cas de figure. Là, c'est pas qu'il faut adapter, c'est qu'il faut tenir compte du contexte. Et les frères ont annoncé la parole. Et parmi les nouveaux convertis et les jeunes convertis, bien, ils se sont unis à une seule épouse, comme le Seigneur le veut. Néanmoins, les autres n'ont pas été mis au banc des bannis, et il a fallu qu'une génération passe. Et pendant ce temps, eh bien, il faut être prudent. Prudent, parce que sinon, vu de l'autre côté, c'est quoi ce message qui met à mal notre culture et qui jette à la rue des femmes avec des enfants, que plus personne ne veut? Il faut être prudent. Et nous, parfois, dans notre monde occidental, nous avons utilisé à l'emporte-pièce des paroles de l'Écriture avec manque de prudence et manque de sagesse. Je me souviens, moi j'étais jeune pasteur, c'était à Limoges, dans ce cas de figure, cet homme et cette femme très très vieux en pleurs, qui venaient enfin de retrouver leur fille. Non pas parce qu'ils l'avaient perdue, mais parce qu'à une époque plus ancienne, où lui faisait partie de ses frères qui avaient des idées un petit peu fermes, et ce n'est pas un jugement, c'est un factuel, c'est comme ça. Eh bien, sa fille avait connu son futur mari un petit peu en décalage. Tu prends ta valise et tu t'en vas. Ils sont partis. Ils ont fait leur vie, les enfants sont nés, et eux devenus vieux, ils n'avaient plus ni leur fille, ni leurs gens, ni leurs petits-enfants. Et ils me disaient la situation avec larmes, et c'est par le biais de la maladie de lui que la fille s'est rapprochée d'eux. Des dizaines d'années, je ne dirais pas perdues, mais des dizaines d'années comme ça. Alors, c'est sûr qu'il y a une autre façon d'aborder certains sujets. D'aucuns diront, mais c'est plus facile aujourd'hui d'aborder ce sujet qu'il y a 30 ou 40 ans en arrière. Je comprends, mais 30 ou 40 ans en arrière, ce n'est pas si vieux que ça, puisqu'il y a 2000 ans en arrière, les cas de figure étaient les mêmes. Voilà. Et il faut que nous soyons prudents. L'homme prudent est attentif à ses pas. Je termine sur ce sujet, puisque c'est moi qui l'ouvre la parenthèse, c'est qu'il y a l'enseignement des Écritures avec les fondements qui sont non négociables, incontournables, et puis il y a la mise en application, et quand le Seigneur a rencontré cette femme adultère, il lui dit « va, elle ne pêche plus ».
Voilà,
je referme la parenthèse. C'est ma faute. C'est ma faute. Je parle de prudence, je l'ai pris.
Non, c'était bien.
Ah ouais, parce que de toute façon, ça va arriver. L'homme prudent est attentif à ses pas. Et ça, ça fait partie de la prudence. Donc, et mes pas me dirigent tous les jours dans des endroits différents et vers des personnes différentes. Mais ça veut dire que je suis attentif là où je vais. Et j'ai besoin de cette intelligence de Dieu. L'homme prudent a égard à la réprimande. Ça aussi, savoir entendre à n'importe quel moment de notre vie, y compris quand on penserait que c'est plutôt à nous de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, de toujours être capable d'entendre la réprimande. Saul de Tarse reprend Pierre. Saul de Tarse reprend Pierre. Pierre aurait bien des raisons de dire ouais. Moi j'étais avec lui, prédicateur de la Pentecôte, une des colonnes à Jérusalem. Toi t'arrives bon dernier, mais il est en faute, point barre. Voilà. Et ça fait partie d'une certaine prudence. C'est que quand on a commis une erreur, on n'a pas besoin que les autres viennent nous le dire, on le sait. Alors si Nathan vient dire à David, d'une manière ou d'une autre, avec une forme ou avec une autre, et en l'occurrence, le Seigneur a fait preuve de beaucoup de prudence à l'égard de David et de nous, parce que si Nathan avait été raide avec David, alors nous on aurait exécuté, je ne vous dis pas, un grand nombre dans le même cas de figure. Sauf que ce que dit Nathan à David nous amène à être prudents, à ramener chacun devant sa responsabilité envers Dieu, et pas nous de nous positionner en tant que juge, voire exécuteur de la décision judiciaire. Voilà. Donc, quand j'ai commis une erreur et qu'on me reprend, l'accepter, c'est une forme de prudence, et ça va m'aider pour une autre fois où éventuellement je pourrais commettre une erreur, et surtout, une autre fois où je vais voir quelqu'un commettre une erreur, là je vais être prudent. Parce que je sais comment j'ai été repris, je sais comment le Seigneur m'a fait grâce, et maintenant il faut que je fasse la même chose, sinon je serai comme ce débiteur auquel le Seigneur a remis une forte somme, et l'autre lui doit 4 pièces et demie, et il le traîne devant les tribunaux. Voilà. Dans le livre de Job, il est dit « Dieu possède la force et la prudence ». Alors si mon Dieu est prudent, moi aussi. Et même dans le livre des Rois, il est dit « Il faut faire la guerre avec prudence ». Il faut aller se battre tranquillement, sans se précipiter. Prudent comme les serpents, alors on reprend notre animal, composé d'une partie du serpent et d'une partie de la colombe. Soit vous mettez la tête du serpent, le reste de la colombe, ou l'inverse. Mais dans tous les cas, le Seigneur a pris deux animaux qui ne sont pas forcément compatibles pour nous donner des exemples, et simples comme les colombes. Alors je dirais que autant le serpent regarde et considère les choses d'en bas, la colombe, elle, à la différence, les considère d'en haut. Et c'est l'exemple que le Seigneur nous donne au travers de la colombe. Regardez les choses d'en haut, c'est beaucoup mieux. Parce que ça nous amène déjà à prendre de la hauteur. Le monde séculier est capable de le dire, attendez, prenez du recul, prenez de la hauteur, vous embarquez pas, toute tête baissée, ne foncez pas. Le monde est capable de le dire. Et Dieu nous invite davantage encore à dire, mais quand ça va, et surtout quand ça ne va pas, prenez de la hauteur. Allez sur la montagne. Ça ne va pas en bas, Moïse, rendez-vous sur la montagne. De toute façon, ce qu'ils sont, ils le sont. Et quand tu vas redescendre, le veau d'or, tu vas l'avoir. Voilà. Mais va sur la montagne. Et pour nous, c'est pareil. Nous devons, dans la simplicité, c'est-à-dire nous devons prendre de la hauteur. Et nous devons écouter. Par contre, la colombe, elle a la capacité d'écouter. Alors les oiseaux, ils ont une capacité d'écoute, c'est phénoménal. Quand vous réalisez qu'ils vous ont repéré, c'est quand ils s'en vont. Voilà. Ils sont d'une craintivité particulière. Voilà. Eh bien, la simplicité nous amène comme cela à avoir une attention aiguë. Quand il est dit l'amour croit tout, c'est sur une base de simplicité. C'est-à-dire on considère tout. On n'a pas de préjugés, on n'a pas d'a priori. Mais on est extrêmement vigilant à tout ce qui se passe, à tout ce qui peut être manifesté, à tout ce qui peut être dit. Et à partir de là, on va repérer, puisqu'on a les facultés du serpent plus celles de la colombe. Donc on va repérer ce qui anime celui qui s'approche. Et rien qu'au pas, puisque le serpent sent les vibrations, ça nous est tous arrivé, gamin, oula, vu le pas de papa ou de maman, il y a un message qui passe. La maîtresse dans le couloir, c'était la même chose. Je n'ai pas été traumatisé, ne vous inquiétez pas, mais voilà. Et à d'autres fois, vous entendez un pas qui est fluide, qui est léger, etc., juste le glissement des chaussons parce que papa ou maman vient juste voir si vous dormez, sans vous réveiller. Et vous faites semblant de dormir, évidemment. Voilà. Et puis vous sentez, parce que c'est comme ça que ça va se passer, sinon ça ne se serait pas passé, le bisou qui se pose sur le front. Voilà. Et ce pas qui repart, c'est extraordinaire. Pourtant, c'est les mêmes pieds, mais de temps en temps, c'est tac, 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 tac. Bon, pas le même message. Et d'autres fois, c'est fluide. Eh bien, nous avons la capacité des deux. Et Dieu nous donne de normalement, on est qualifié aujourd'hui, on est armé pour être simple et prudent et ne plus se faire prendre. Voilà. Jésus, il est dit de lui, il apparaît comme un simple homme. Alors c'est vrai au premier degré dans le sens de la simplicité humaine et de l'apparence, mais également au second degré, dans ce sens où il a fait preuve de simplicité dans les rapports humains. Il a été vrai. Ce qui a permis aux autres d'être vrais à leur tour. Pourquoi cette femme va se confier à lui? Parce qu'il est simple. Voilà. Et une colombe, vous avez envie de la prendre, quoi, sauf que vous n'y arriverez pas. Mais vous savez que d'elle, vous risquez rien. Du serpent, ce n'est pas la même histoire. Voilà. Mais de la colombe, oui. Et bien nous, c'est pareil, nous deux. Nous devons avoir une forme de simplicité qui attire, qui met à l'aise, qui amène presque à vous faire des confidences. Alors attention, quand on vous fait des confidences, vous êtes sous le coup du secret professionnel. Aujourd'hui, il est applicable de par la loi à certaines catégories socio-professionnelles, y compris les ministres des cultes. Voilà. Et on peut être mis en responsabilité comme un médecin, etc. Mais en dehors de l'aspect légal, quand quelqu'un vous fait une confidence, faut vraiment bien la gérer. Voilà. Et quand on vous a fait une confidence d'un lourd péché, ah, qu'est-ce que je vais répondre? Parce que cette personne pourrait être de ma famille, cette personne pourrait être mon enfant, cette personne pourrait être mon père. Qu'est-ce que je vais en faire? Il faut avoir cette simplicité qui favorise la confiance et qui fait aussi que lorsque nous allons répondre, on ne va pas donner les 10 commandements. C'est ça qui est particulier. Alors je vais terminer avec ça. Le serpent, lui, il voit et il sent les choses d'en bas. La colombe, elle voit et elle sent les choses d'en haut. Et entre le serpent et la colombe, on a les deux approches d'une situation par le bas et par le haut. C'est-à-dire humainement parlant, naturellement parlant, spirituellement parlant. Eh bien, le Seigneur nous dit humainement parlant, prudence. Spirituellement parlant, simplicité. Et ce serait extraordinaire que Dieu soit capable d'être simple, pas nous. Mais malheureusement, on est extraordinaire. C'est que Dieu est simple, nous on est compliqué. Voilà. Et on a la faculté, la capacité de tout compliquer. Alors le monde est compliqué. Ceux qui viennent vers le Seigneur ont besoin de réponses simples. Comment dois-je prier dans mon cas de figure? Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Voilà. Et quand déjà vous placez votre relation entre vous et Dieu au niveau d'un enfant qui s'adresse à son père, eh bien, vous vous mettez en position où le père va pouvoir vous parler au travers de sa parole. Et il va vous indiquer les choses. Et le Seigneur, il va y aller progressivement. Parce que s'il y a 1500 nœuds dans la pelote, eh bien, on fait tous la même chose. Et Dieu aussi. Et un par un. Nous, on veut les régler, les 1500 à la fois. Si vous voulez me régler 1500 nœuds à la fois, il n'y a qu'une solution, c'est coupe-coupe. Vous coupez, alors là, il n'y a plus de nœuds, il n'y a plus rien d'ailleurs. Voilà. Et nous, il y a des situations, parfois on les a tellement coupés, on n'a pas défait les nœuds, on a coupé. Et les gens avec. Voilà. Et c'est plus facile de couper. Défaire des nœuds, ah là là, défaire des nœuds. C'est extraordinaire de défaire des nœuds. Pourtant, un nœud, c'est simple. Hein. Vous prenez, voilà. Vous le serrez, le temps a passé, l'eau a passé, etc. Vous n'y arrivez plus. Et pourtant, il n'y a qu'un bout qui s'est repris sur lui-même. Hein. Voilà. Et même les situations simples nouées, elles sont compliquées à défaire. Alors soyons simples et prudents. Laissons le Seigneur nous aider et nous diriger. Et exerçons-nous, par la grâce de Dieu, à défaire des nœuds. C'est-à-dire défaire des situations compliquées qui se sont nouées, qui se sont endommagés. Voilà. Et vous verrez que après, vous allez y arriver à défaire les nœuds, et il va vous en arriver de plus compliqué. Et de plus en plus, de plus compliqué. Et vous, vous ne souhaitez pas avoir des situations compliquées à gérer, mais à qui le Seigneur va diriger les situations compliquées de ce monde, si ce n'est envers ses serviteurs et ses servantes que nous sommes? Alors, s'il y a des situations compliquées dans notre famille, autour de nous, c'est peut-être un entraînement que le Seigneur nous donne, parce qu'ils vont arriver, hein, ceux qui sont que des sacs de nœuds. Quand vous avez fini d'écouter la vie d'une personne, vous vous dites, comment on fait? Heureusement qu'il y a la prière, on va prier. Des fois, c'est une échappatoire. Hein. Comment on fait? Quand on vous confie des situations, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot, c'est des sacs de nœuds. Voilà. Eh bien, on a besoin de l'Esprit de Dieu, on a besoin de la prudence, on a besoin de la sagesse, on a besoin de ne pas tout casser pour que les choses puissent se défaire et que les cœurs puissent être transformés, que les situations puissent évoluer. Voilà. Alors, sagesse, prudence pardon, et simplicité, ce sont à mon sens des vertus spirituel. Voilà. Que le Seigneur nous aide à avoir de la prudence et puis de la simplicité.